9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour cet ultime week-end de la saison. On va commencer par la politique politicienne, les régionales ayant eu lieu avec les résultats que l'on sait. Tout le monde a maintenant la présidentielle en ligne de mire. On va passer les troupes en revue avec le politologue Jérôme Sainte-Marie. Je recevrai ensuite la romancière et philosophe Catherine Clément qui vient d'écrire un livre sur Calcutta. Rien de ce qui est indien ne lui est étranger. Je vous parie qu'elle a même des choses intéressantes à nous dire sur le variant indien. Et l'on terminera l'émission avec Jean-Baptiste Bissonnet des célèbres boucheries nivernaises. Dans sa famille, on est boucher de père en fils depuis 8 générations et l'on fournit l'Elysée comme les palaces. On sait donc s'adapter. Depuis le premier confinement, il est capable de livrer sa viande en 48 heures dans n'importe quel endroit de France, Corse comprise, de quoi révolutionner les barbecues de nos vacances. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes politologue, président de l'Institut PollingVox et l'auteur du livre « Bloc contre bloc » paru aux éditions du CERF. Alors parmi les choses que l'on a apprises de ces élections régionales, c'est qu'on n'avait jamais vu une telle déroute des sondeurs.
Ah, il faut bien reconnaître que entre les derniers sondages publiés et le résultat sorti des urnes, il y a des écarts qui sont inédits. Il y a certaines listes, notamment du Rassemblement National, c'est là où c'est le plus spectaculaire, où il manque 10, 11, 12 points par rapport au dernier sondage publié, ceci pour le premier tour et également pour le second tour. Alors c'est d'autant plus troublant, pour charger un peu le dossier, que il n'y a pas eu d'événement particulier entre le vendredi de la publication de ces sondages et le dimanche où a lieu l'élection. Quelle est la raison ? Pour bien connaître les choses, y compris de l'intérieur, c'est tout simplement parce que les questions qui sont posées par les sondeurs et par moi-même pour savoir si les gens ont réellement l'intention d'aller voter, on a beau durcir ces questions, ne plus retenir que les gens vraiment absolument certains d'aller voter, enfin qui nous disent ceci en tout cas, on a encore beaucoup trop de monde. Ce qui fait que ces intentions de vote ont davantage ressemblé à des potentiels de vote qu'au vote réel. C'est une énorme difficulté pour ces élections marquées par une abstention gigantesque, inédite. Une difficulté qu'on n'a pas encore réussi à résoudre. C'est ce qui explique d'ailleurs que les intentions de vote de second tour n'étaient pas meilleures que celles du premier. On se rassure un petit peu, et je crois qu'il faut rassurer un petit peu quand même le public, sur le fait que les dernières élections présidentielles ont été marquées par des sondages d'une très grande précision. Et on peut penser que les sondages qui sont réalisés actuellement pour l'élection présidentielle sont également assez précis, parce que pour le moment, lors de ces élections, la plupart des Français vont voter, 78% des inscrits au dernier scrutin présidentiel, et que dans ce cas-là, la méthode classique des sondages fonctionne à peu près correctement.
Vous êtes sûr que tous les Français vont aller voter ? Bon, l'abstention a été massive lors des régionales, mais elle a tendance à augmenter aussi au moment de la présidentielle.
Pas exactement. C'est-à-dire que le sommet de l'abstention à l'élection présidentielle, ça a été le scrutin de 2002, le 21 avril 2002, que tout le monde a en mémoire, je crois, avec la qualification surprise de Jean-Marie Le Pen pour le second tour. Et là, effectivement, on était monté assez haut. À peu près un quart des Français n'étaient pas allés voter. Là, désormais, c'est un scrutin pour lequel les Français participent massivement, 78% donc en 2017. Pourquoi ? Parce que, en fait, les Français vont voter quand il y a un réel enjeu. Et ils considèrent encore qu'il y a un enjeu pour la présidentielle, que le président de la République peut faire des choses. Je ne vous cache pas, cependant, qu'on voit apparaître un sentiment de découragement parmi les Français, ce qu'on appelle de manière un peu pédante l'anomie, c'est-à-dire le fait que les gens ont l'impression de ne plus avoir prise sur rien et sombre dans une forme de dépression démocratique. Ça peut toucher éventuellement la prochaine élection présidentielle, mais certainement pas dans les proportions des scrutins récents. Petite remarque, les européennes, avec 50% à peu près de participation, avaient été marquées par un léger rebond de participation.
Les deux favoris de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sont présentés aujourd'hui comme les deux grands perdants des élections régionales qui viennent de se dérouler. Vous êtes d'accord ?
En réalité, il y a trois grands perdants. Il y a la République En Marche, il y a le Rassemblement National, il y a également la France Insoumise. Ces trois formations ont un point commun décisif. Elles n'ont pas d'ancrage local et notamment elles n'ont pas d'ancrage municipal. Je pense que ça a été très important dans le fait que leurs électeurs ne se sont pas déplacés.
La droite est considérée, elle, comme victorieuse.
Oui, c'est probablement un effet d'optique. C'est une illusion qui n'est sans doute pas partagée par les leaders de la droite et les cadres politiques qui voient bien quand même ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur un électorat totalement resserré sur les catégories les plus participationnistes, qui sont également les catégories les plus âgées. Généralement, beaucoup plus les propriétaires, par exemple, que les locataires. Donc, grosso modo, les gens qui sont bien intégrés dans la vie sociale. C'est précisément l'électorat naturel de la droite, ou plus précisément ceux qui restent à la droite, désormais que Emmanuel Macron, lui a pris énormément de cadres supérieurs et que le Rassemblement national lui a pris les catégories populaires.
Donc si on a l'impression que la droite est victorieuse aujourd'hui, c'est simplement que les électeurs de droite faisaient partie de ceux qui sont allés voter le week-end dernier.
Deux chiffres très frappants. Au premier tour des régionales, il y a 10 jours, seuls 13% des plus jeunes, des 18-24 ans, sont allés voter, alors que 60% des gens âgés de 70 ans et plus sont allés voter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes âgées, plus précisément les retraités, continuent à voter majoritairement, alors que chez les plus jeunes, eh bien, le vote a pratiquement disparu lors de ces derniers scrutins locaux.
Bilan également de la des élections régionales. Xavier Bertrand apparaît comme le candidat désigné de la droite.
Xavier Bertrand est indubitablement renforcé par ce scrutin, mais il n'est pas devenu du tout le candidat naturel de la droite. D'autres présidents de conseils régionaux de droite, Valérie Pécresse, bien sûr, dans l'Île-de-France, ou bien
Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez, voilà, eh bien, ont également été très facilement réélus. Il y a eu une énorme primo sortant, aussi bien pour les présidents régionaux de droite que pour ceux de gauche. Et donc, ces élections régionales n'ont pas et ne pouvaient pas départager les différents prétendants éventuels à droite. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un effet d'entraînement manifeste. Depuis quelques jours, paraissent des sondages où Xavier Bertrand est du côté de 17% des intentions de vote au premier tour. Il est loin devant ses éventuels concurrents à droite, mais il n'est toujours pas qualifié virtuellement dans ses intentions de vote pour le second tour. Or, c'est ça qui est décisif.
Et Laurent Wauquiez reviendrait dans le jeu?
Oui, Laurent Wauquiez a été contraint à sortir de la politique nationale en apparence après les élections européennes ratées des Républicains, puisque la liste qu'il soutenait n'a même pas atteint 9% des suffrages exprimés. Laurent Wauquiez n'a pas dit son dernier mot. Il peut être une solution pour incarner une droite relativement autoritaire, relativement traditionnelle sur les valeurs morales, une droite qui est assez différente au fond de celle de Xavier Bertrand, mais pour l'instant ça reste des nuances pour initier.
On fait une pause, Jérôme Sainte-Marie, on y revient tout de suite après.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
On continue de parler politique avec le politologue Jérôme Sainte-Marie. La primaire de la droite, vous y croyez, vous, du temps de François Mitterrand et Jacques Chirac, ni la gauche ni la droite n'avaient besoin de primaire. Le candidat naturel, c'était le chef. Depuis quelque temps, tout le monde veut faire des primaires. On considère cela comme un progrès, un peu comme le non-cumul des mandats. Xavier Bertrand l'avait dit, il ne veut pas passer par la primaire, mais le fait que, comme vous le soulignez, que Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez ont eux aussi été réélus à l'issue de ces régionales, on pourrait penser qu'elle revient d'actualité.
Il est tout à fait possible que la droite se résigne à organiser des primaires. Les primaires ont mauvaise presse depuis l'échec de François Fillon et de Benoît Hamon, tous deux désignés par des primaires à droite et à gauche en 2017. Mais auparavant, il y a 4 ans de cela, on considérait que c'était un excellent moyen de l'emporter ensuite à la présidentielle. D'ailleurs, 4 millions de sympathisants de droite étaient allés voter à la primaire de la droite. Pourquoi est-ce que ça peut s'imposer aujourd'hui? D'une part, la direction, le parti LR est très affaibli. Il n'y a pas d'autorité en réalité parisienne par rapport aux grands barons régionaux et par rapport aux principaux candidats possibles. D'autre part, il n'y a pas non plus la possibilité de trancher par sondage. Vous l'avez souligné cruellement, la crédibilité des sondages a été fortement amoindrie par ce qui s'est passé au régional, et donc cette idée un peu baroque n'a plus lieu d'être. Du coup, la primaire pourrait effectivement être le moyen le moins mauvais de désigner le candidat pour éviter évidemment le pire, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs candidats de droite.
Au Parti Socialiste, il y a Anne Hidalgo. Une tribune d'élus de gauche a été publiée mercredi soir appelant à sa candidature. Elle a une chance ?
Oh, ça me paraît très difficile pour elle de s'imposer. La gauche, aujourd'hui, dans les sondages d'intention de vote à la présidentielle, sur l'ensemble de l'électorat, c'est à peu près un Français sur quatre. Donc déjà, même une gauche rassemblée aurait des difficultés pour se qualifier pour le second tour. Or, cette gauche risque de ne pas pouvoir se rassembler. Elle est effectivement divisée sur des sujets majeurs. Je ne pense pas qu'Anne Hidalgo aurait beaucoup à gagner à quitter la mairie de Paris pour se lancer dans une aventure probablement sans issue.
Et Jean-Luc Mélenchon ?
Jean-Luc Mélenchon, lui, a l'expérience déjà de deux campagnes présidentielles. Il a une autorité incontestée sur la France insoumise. Il a des cadres qui savent faire une campagne électorale. Et enfin, il a l'argent pour le faire. Tout ça m'incline à penser qu'il sera, quoi qu'il en coûte, candidat. Et par ailleurs, les sondages réalisés ces derniers temps montrent le plus souvent qu'il arrive en tête, d'une courte tête certes, des différents candidats de gauche. Par ailleurs, la France insoumise représente un courant et une sociologie particulière, largement issue du parti de la tradition communiste en réalité. Et donc je pense que Jean-Luc Mélenchon sera candidat. Inversement, il me paraît extrêmement improbable qu'il puisse se qualifier pour le second tour.
Pourtant, en 2017, ça s'est joué dans un mouchoir de poche hein, entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. On avait l'impression que oui, ça s'était passé à ça.
Bien sûr, c'est la grande espérance des sympathisants de la France insoumise de se dire qu'au fond, quelques mois, je crois que c'était en février, en mars même, début mars 2017, Jean-Luc Mélenchon était légèrement en dessous de 10% et il a doublé son score en 5 semaines grâce à une campagne absolument magnifique. La différence, c'est que entre-temps, son image s'est beaucoup usée. Il était presque inconnu à l'époque, enfin en tout cas par le grand public. Il pouvait donc se réinventer. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas possible et que la magie de la campagne de 2017 ne peut pas se reproduire en 2022. Et donc, il me semble que voilà, les conditions ne sont pas réunies pour une campagne victorieuse. Mais là aussi, je peux bien entendu me tromper.
Depuis les régionales, deux écologistes ont officialiser leur candidature à la primaire. Il s'agit d'Éric Piolle et de Yannick Jadot. Il y avait déjà Sandrine Rousseau qui avait officialisé la sienne. Du côté des écologistes, ça pèse vraiment. Après les municipales, beaucoup de commentateurs avaient dit « ça y est, là, il y a un tournant, on va devoir compter avec les écologistes ». Ça ne s'est pas vraiment traduit dans la réalité.
Ça fait à peu près 30 ans. Depuis les élections régionales de 1992, que à chaque élection européenne ou régionale précisément, municipale réussie par les écologistes, on annonce qu'ils vont être une force décisive pour la présidentielle. Ça ne s'est jamais concrétisé. Le score le plus élevé fait par un candidat écologiste, c'est Noël Mamère en 2002. Un peu plus que 5%. Alors pourquoi ça ne se réalise pas ? Sur des scrutins qui sont considérés comme un peu secondaires par les Français, l'écologie est un motif suffisant pour voter et pour choisir ce candidat plutôt qu'un autre. Inversement, lors de l'élection présidentielle, il y a toute une série de sujets, notamment économiques et sociaux, sur lesquels l'offre écologiste, pour l'instant, ne convainc pas les Français. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on ait une confirmation des quelques réussites locales aux municipales pour les écologistes. Je souligne par ailleurs que la performance des écologistes dans ces dernières régionales n'a pas non plus été particulièrement tonitruante.
Et les primaires écolo, alors on a tendance à penser qu'elles consistent à éliminer le meilleur.
On voit souvent les écologistes comme des gens très dogmatiques, très rigides, voire un peu sectaires, et prisonniers de leur culture interne. C'est pas évident. En 2002, la primaire des écologistes avait choisi Alain Lipietz. Or, il n'était pas très performant dans les sondages d'intention de vote. Et à ce moment-là, ses camarades écologistes avaient fait pression pour lui pour qu'il se retire et avait été placé donc comme candidat Noël Mamère, qui d'ailleurs avait réussi un score tout à fait honorable.
Noël Mamère, qui avait été son adversaire pendant la primaire, je crois.
Hein. Absolument.
Et qui l'avait perdu.
Oui, mais cette substitution s'est faite exclusivement sur la foi des sondages, ce qui est un cas unique à ma connaissance, dans les annales électorales françaises. Donc ça va totalement à l'encontre des idées toutes faites sur les écologistes, qui savent se montrer très pragmatiques, voire même franchement opportunistes.
C'est ce qu'on a failli voir peut-être avec François Fillon à un moment, comme il était très bas dans les sondages en 2017, on voulait le remplacer par Alain Juppé, qu'il avait pourtant battu pendant la primaire. Ça ne s'est pas passé à droite, mais ça s'était passé à l'époque avec les écologistes. Un dernier mot, Éric Zemmour, on a beaucoup glosé sur son potentiel de 15% d'électeurs au premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Les proches d'Éric Zemmour se plaisent à confondre délibérément les sondages d'intention de vote, qui le placerait à 5% ou 5,5%, et les sondages de potentiel de vote. C'est un tour de passe-passe qu'il faut quand même un peu décrypter. Un potentiel de vote, c'est simplement demander aux gens, pourriez-vous voter pour, en l'occurrence, Éric Zemmour, à l'élection présidentielle ? On ne précise pas si c'est au premier ou au second tour, et on ne précise pas quelle va être l'offre concurrente au niveau politique. Ce qui fait qu'on a toujours des scores très élevés. Ainsi, quelqu'un comme le général de Villiers, je crois, était à 20% de potentiel de vote. Le comique Bigard était à 13%, me semble-t-il. Donc, ça ne signifie pas grand-chose. Alors, du coup, les gens agitent ce chiffre en disant « Éric Zemmour serait à 13% ou serait à 18% ». Pas du tout. C'est un potentiel de vote. Et quand on pose la question sur la plupart des personnalités politiques un peu connues, on a des chiffres supérieurs, parfois même très supérieurs à celui-ci.
Merci Jérôme Sainte-Marie. On a maintenant rendez-vous avec Catherine Clément. Bonjour Catherine Clément.
Bonjour Frédéric Tadéhi.
Vous êtes romancière, vous êtes philosophe, vous avez consacré de nombreux livres à l'Inde où vous avez vécu plusieurs années. Vous venez d'ailleurs de faire paraître aux éditions du Seuil un autoportrait de Calcutta dont nous allons parler dans un instant. Mais je suis sûr que vous portez un regard particulier sur ce variant indien qui risque d'empoisonner notre été. Normalement rien de ce qui est indien ne vous est étranger.
Il ne faut pas exagérer quand même, non. Je me demande qui pourrait se vanter de connaître l'Inde à fond. Non, non, moi pas plus que les autres. Mais quand même, il faut savoir que si le variant indien s'est installé en Inde, c'est parce que le Premier ministre Narendra Modi a autorisé un pèlerinage au pied des Himalayas qui a rassemblé 22 millions de personnes pendant 8 jours. Donc 22 millions de personnes qui se baignent dans le Gange, oui, c'est un énorme cluster. Alors ce que ça me rappelle aussi, c'est la façon dont les Indiens traitent les démons, les Hindous plutôt, traitent les démons. Quand il y a un démon, ça peut être la sécheresse, ça peut être une inondation, ça peut être bien entendu une maladie. Il y a toutes sortes de déesses de maladies, il y a des déesses du sida. Je suis sûr qu'il existe une déesse Covid en ce moment. Mais on commence par l'appeler démon et on fait appel aux déesses qui tuent. La déesse qui tue le mieux, c'est Kali. Et c'est Kali, vous savez, la dame à la dent tirée, celle qui est toute noire, avec la dent tirée rouge. Et puis des colliers de squelette et une jupe de bras coupés. C'est une charmante personne. Et quand elle voit un démon arriver et qu'on lui donne la tâche de le tuer, elle le décapite et chaque goutte du sang du démon rebondit en plusieurs autres démons. Ça, c'est le variant.
Oui, en effet.
Est-ce que c'est clair jusque-là ?
C'est tout à fait clair. Vous parlez dans votre autoportrait de Calcutta de Shitala, une déesse des pauvres qui a d'abord été la divinité de la variole. Et depuis que la variole a été éradiquée, elle a changé de maladie. Elle a pris la lèpre, la rougeole, le sida, la malaria. Et j'imagine maintenant le Covid-19, hein, puisqu'on la surnomme la mère des fièvres.
Certainement oui. Elle a une autre particularité bien intéressante. C'est une déesse qui admet toutes les castes et toutes les religions. Donc on y voit des hindous, des chrétiens, des sikhs, des musulmans, des jaïns, on y voit de toute l'Inde. Et ça c'est une particularité très rare en Inde.
Mais Shitala, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lutte contre les maladies ou elle se contente de les héberger et de se promener ?
Non. Alors ça c'est pas clair. Je vais vous dire ça représente comment elle est représentée. Elle a un balai normal dans les bras pour indiquer qu'elle est servante ou qu'elle peut faire le ménage. C'est la déesse des techniciennes de surface normalement, hein. Elle a un pot dans lequel elle plante des pois, ça ce sont les virus. Quand les pois sont sortis du pot, elle les cueille, elle les envoie balader. Et elle a par ailleurs un grand pot d'eau très froide pour guérir. C'est un vieux truc de yoga ça.
Mais un pays qui compte, je crois, 300 000 dieux, pour la plupart bien vivants.
Hein, 300 millions.
300 millions de dieux en Inde, qui sont, j'allais dire, bien vivants et qui, pour la plupart, se reproduisent comme des lapins. On pouvait se dire, effectivement, que c'était le pays idéal pour les variants.
Oui. Et d'ailleurs, il y en a un qui est né au Bengale. Un variant Delta Plus.
Un nouveau mutant qui pourrait être encore plus contagieux et encore plus résistant.
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il faut que Kali... Pour avoir la peau d'un démon, quel qu'il soit, Kali boit son sang, mange sa chair et ensuite mange sa propre chair à elle.
Kali, c'est la plus grande déesse du Bengale et la patronne de Calcutta. Oui. C'est Kali, vous l'avez dit, qui tire la langue, qui arbore, dites-vous, une mini-jupe de bras coupés et un collier de tête décapitée. D'où lui vient un tel succès à Kali ?
J'ai découvert ça en écrivant ce livre, je ne le savais pas. Figurez-vous que l'instauration du culte de Kali, la vengeresse aussi, a coïncidé avec la colonisation. Les rituels ont démarré en même temps que la colonisation. Donc c'est clairement un rituel de revanche contre l'envahisseur blanc, qui n'était pas méchant à l'époque, ce n'était pas encore le colonialisme déchaîné. Mais c'était quand même des capitaines et des marchands. Et c'était suffisant pour déclencher ce culte de Kali. Elle est considérée comme la mère depuis que ce fou de Ramakrishna, qui était un grand saint mystique du 19e siècle, a décrété que c'était la mère de tous les Indiens, et particulièrement de tous les Bengalis. Et j'ai devant moi, sous les yeux, en ce moment, une gravure que j'ai achetée à Calcutta, justement, qui représente Kali. Elle a les cheveux très très longs, elle a sa langue très attirée, et elle berce Ramakrishna dans ses bras.
Et à qui tire-t-elle la langue ?
Alors, elle tire la langue parce qu'elle était en transe quand elle a vaincu le démon. Elle a fini par se bouffer elle-même, et elle danse, et elle trépigne, et elle danse dans une danse de transe, et elle ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de piétiner l'un de ses papas, et qui est Shiva, car elle a plusieurs pères. Hein. Et celui-là, elle le piétine. Alors de surprise, elle s'arrête et elle tire la langue, genre « Oups !»
Oui, en effet. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre sur Calcutta, Catherine Clément, pourquoi pas Bombay ou New Delhi ?
Parce que je connais beaucoup. C'est la ville que je connais le mieux en Inde, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est Hugues Chalon, le nouveau président du Seuil, qui m'a demandé d'abord une biographie de Calcutta. Je me suis demandé comment faire ça. Et puis d'un seul coup, j'ai compris que si elle racontait elle-même son histoire, ça serait beaucoup plus amusant.
D'où l'autoportrait. Mais alors, ce que j'ai découvert en vous lisant, c'est que Calcutta, qui nous paraît vraiment la ville indienne par excellence, en fait, au départ, est un comptoir anglais.
Et elle reste un comptoir anglais quelque part. Oui, c'est d'abord un petit comptoir anglais fabriqué à partir de trois ou quatre masures qui étaient des simili-villages. Et ensuite, ça devient un port et un fort. Et ensuite, ça devient une ville anglaise, puisque c'est la capitale de l'Empire anglais, jusqu'en 1922 en tout cas. Et ensuite, elle devient à peu près indienne. Il reste quand même une architecture coloniale très très présente. Hein. Et une ambiguïté tout à fait considérable dans tout. C'est une ville extraordinairement ambiguë.
Qu'est-ce que vous appelez ambiguë ?
Eh bien, par exemple, les grands poètes, il y a là à Calcutta le grand poète Rabindranath Tagore, il y a le grand mystique dont j'ai parlé, Ramakrishna, il y a aussi un écrivain qui s'appelle Bankim Chatterjee, ce sont des très très grands, et tous sont des brahmanes, Ramakrishna est un vrai brahman, mais les autres sont des brahmanes déclassés, figurez-vous. Et alors ça, je ne savais pas qu'il existait des brahmanes déclassés, ce sont ceux qui ont collaboré avec les musulmans moghols.
En effet, qui ont régné sur l'Inde pendant plusieurs siècles.
Hein. Oui, et la famille de Nehru était dans les brahmanes déclassés.
Mais alors revenons à Calcutta elle-même. Marguerite Duras entendait des cris dans Calcutta désert. Vous vous souvenez,
ce titre ?
Je
me demande bien comment elle a fait.
Voilà, et vous dites que c'est impossible de trouver Calcutta désert. La foule est permanente.
Même la nuit, oui. Des cris, il peut y en avoir, mais Calcutta désert, je ne vois pas ce que c'est. Je pense qu'elle procédait par antiphrase. C'est une licence poétique.
Ou parce que ça sonnait bien.
Oui, ou parce que ça sonnait bien. Calcutta désert. Kolkata désert, Kolkata est le nouveau nom. c'est beaucoup moins bien, il faut bien dire.
Mais alors, comment expliquez-vous qu'on ne puisse pas trouver Calcutta désert ? Paris a une densité qui n'est pas si loin. Hein. La densité de Paris, c'est près de 21 000 habitants au kilomètre carré.
On est à 24 et des poussières.
Voilà, mais ce n'est pas une telle différence. Paris fait partie des villes les plus densément peuplées. Hein. C'est la 7e, je crois, au monde.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je revenais de Calcutta pour aller à Paris, je trouvais Paris absolument désert, même le jour.
Comme quoi, hein, à quoi ça tient ? Les mendiants, peut-être, c'est ce qui frappe les Occidentaux et leur fait peur en général.
Oui, alors
vous dites dans ce livre, les mendiants sont là pour obliger le croyant à s'inscrire dans l'équilibre du monde. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien, les mendiants, ils vont là où est l'argent. Là où est l'argent, ce sont les hôtels de luxe pour occidentaux ou pour touristes. Il y a maintenant un tourisme intérieur en Inde très important. Donc, ils vont là où est le fric, c'est-à-dire à l'entrée des hôtels. Ils sont massés. Il y a une mafia des mendiants partout en Inde. Alors ça, mais celle de Calcutta parce que j'ai vu ça quand même plusieurs fois, mais pas récemment, avait la particularité de mutiler les nourrissons à la naissance. Donc on leur coupe la moitié d'un bras, une jambe.
Qu'ils fassent ensuite la mendicité.
Oui, bien sûr, c'est un apprentissage de la mendicité. Donc c'est pas la même chose que les mendiants à Bénarès, par exemple. Les mendiants à Bénarès, c'est pour qu'on leur fasse l'aumône, et ça c'est une bonne action. Il y a des bonnes actions dans toutes les religions, dans la religion juive, dans la religion musulmane et dans la religion hindoue, on donne à un mendiant. Ça, c'est un Bénarès. Ceux de Calcutta sont très agressifs et ils cassent l'argent avec agressivité. Donc, il n'est pas étonnant que les riches jeunes gens les détestent, mais pourtant, ils rétablissent un équilibre.
Vous faites allusion dans ce livre à une guerre oubliée qui a éclaté en 1962 entre l'Inde et la Chine. Elle a duré un mois, elle a fait entre 2000 et 3000 morts et elle a été remportée par la Chine de Mao, hein, qui s'est emparée de l'Aixi-Chin. C'est 40 000 km² à peu près qui ont été annexés par la Chine. C'est l'équivalent de la Belgique et du Luxembourg. On a complètement oublié cette guerre.
Elle a pourtant tué Nehru. Enfin, Nehru est mort de chagrin de ça, 2 ans plus tard. Et la Chine est une menace permanente, absolument permanente.
L'Inde, encore aujourd'hui.
Oh, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Elle menace. D'abord, elle menace grandement. Elle menace aussi le Bangladesh parce qu'il est en train de faire un barrage sur le Brahmapoutre. Donc, il y a un vrai problème de répartition des eaux. Et la frontière avec la Chine est immense. Elle va du Cachemire au Bangladesh. Hein.
Oui, cette guerre avait eu lieu dans la montagne, hein, près du Tibet.
Mais oui, bien sûr. Mais les Chinois sont, semble-t-il, mieux habitués au froid que les soldats indiens qui crèvent de froid.
Mais est-ce qu'elle a fait peur, cette guerre, à l'époque ? Parce qu'elle est à peu près contemporaine de la crise des missiles de Cuba, où là, le monde entier a tremblé, en pensant que ça allait peut-être être la Troisième Guerre mondiale. Entre l'Inde et la Chine, c'était quand même entre les deux pays quasiment les plus peuplés du monde.
Et parmi les plus pauvres à l'époque. Et les plus pauvres. Non, personne ne regardait de ce côté-là. Personne ne regardait l'Inde, ni la Chine, ni l'Inde. On était suspendus aux États-Unis d'Amérique, c'était la coupure totale. Hein. Et personne ne parlait de la conférence de Bandung qui avait réuni les leaders du tiers-monde. C'était le tiers-monde. On ne le savait pas, on ne faisait pas attention, ça n'était pas dans les informations.
Même vous, à l'époque, vous ne vous y intéressiez pas encore à l'Inde ?
Mon Dieu, mon premier voyage en Inde date de 1983, il m'a fallu me mettre dans un avion de force.
Pourquoi ne voulez-vous pas y aller ?
Je voulais absolument pas y aller. J'avais très peur de ce pays parce que ma mère, après la disparition de ses parents à Auschwitz, avait adhéré à une secte très digne et très bien. Pas du tout une secte malhonnête, qui était la Ramakrishna Mission. Et donc, on a eu mon frère et moi, on a eu pendant quelques temps une mère en sari orange le matin et qui soufflait dans une conque.
Ah oui, en effet.
C'était pas un bon souvenir.
Merci, Catherine Clément. Je renvoie à votre livre Autoportrait de Calcutta qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Mon prochain invité est boucher, c'est Jean-Baptiste Bissonnet des Boucheries Nivernaises, une référence dans le métier. Bonjour Jean-Baptiste Bissonnet.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directeur des Boucheries Nivernaises qui ont été créées par votre grand-père. Dans votre famille, on est boucher de père en fils depuis Napoléon III. Ça fait 8 générations. Le métier a dû beaucoup changer, non ?
Le métier a énormément changé et c'est vrai que Comme vous l'avez dit, c'est un métier qui se transmet chez nous de génération en génération et on se passe le couteau dans la famille.
Oui, exactement. Mais on a du mal à imaginer ce que c'était d'être boucher sous Napoléon III avant l'invention du réfrigérateur.
On a beaucoup de mal, à s'imaginer. Mais déjà, à l'époque, les choses étaient extrêmement bien organisées. Et donc, c'était...
On tombait pas malade.
on tombait peut-être même moins malade.
Ah oui, à ce point-là, pourquoi ?
Ben parce que, on va dire, on avait des anticorps un petit peu plus résistants.
C'est votre grand-père Jean, le fondateur des boucheries nivernaises, qui a commencé avec une boucherie à Suresnes, puis à Saint-Cloud, puis à Auteuil. La première boucherie nivernaise, quand il a donné le nom, c'était 99 rue du Faubourg Saint-Honoré.
C'est exact.
Et c'est toujours d'ailleurs la boucherie principale de la famille.
C'est notre vaisseau amiral, exactement.
Il a commencé à fournir l'Élysée, qui se trouvait à deux pas, et les grands hôtels dans les années 60. Il a ouvert dans les années 60 des boucheries nivernaises dans les centres commerciaux, alors que ce soit Parly 2, Vélizy 2, Créteil, vous en êtes toujours à Parly 2 d'ailleurs. Il a anticipé la mondialisation en expédiant ses viandes en Arabie Saoudite, en Iran, au Liban, et en développant un élevage en Uruguay. Au fond, vous vous êtes toujours adapté à votre époque.
On a cessé de s'adapter, on se doit de s'adapter. Et on a toujours anticipé les choses.
Encore aujourd'hui, avec l'épidémie de Covid, pendant le confinement de l'année dernière, alors que beaucoup de Parisiens s'étaient réfugiés à la campagne, vous vous êtes mis à expédier des coffrets de viande à travers toute la France, Corse comprise, en 48 heures.
Exactement. Il a tout simplement fallu innover, parce que la boucherie aussi peut avoir ses côtés innovants. Et avec les équipes, on s'est tout de suite motivé sur un super projet, donc qui était d'aller... ravitailler nos clients qui ne pouvaient pas venir s'approvisionner dans nos magasins. Et on a monté, grâce à l'aide de mon beau-frère...
Toujours la famille. Hein.
Toujours la famille. Voilà, on travaille en famille chez les Bissonnets. C'est une tribu et on est très, très heureux et tous soudés. Dans le cadre de ce projet-là, on s'est retrouvés. On a tout de suite organisé une grosse réunion de travail. On s'est dit, nos clients sont malheureux. Ils veulent de la viande des boucheries nivernaises, donc organisons-nous, créons un site internet, sélectionnons des produits spécifiquement pour eux, frais, bien entendu des produits frais, qui sont donc à déguster en famille et en 48 heures.
Mais voilà, comment on fait pour livrer des à l'endroit de son choix, à peu près partout en France, en 48 heures, de la viande qui reste fraîche ?
La viande arrive chez nous, elle est préparée, elle est mise sous vide et après, nous la mettons dans des fameux coffrets, qu'on appelle les coffrets des Nivernaises. Et de là, nous les expédions par le biais de Chronofresh.
Mais ça peut rester frais pendant combien de temps sous vide de la viande ?
À la viande qui est mise sous vide, bien entendu, elle est livrée avec sa petite étiquette donc de DLC, c'est de l'ordre de 7 à 10 jours.
Ah oui, à ce point-là.
Mais vous pouvez aussi prendre cette viande, la mettre de côté pour certaines pièces, même carrément les congeler, et après les déguster un petit peu plus tard.
Et j'imagine que ça va continuer pendant tout l'été pour les barbecues en vacances. Je crois qu'on dit que 6 Français sur 10 possèdent un barbecue. C'était américain, ça ne l'est plus. Les ventes ont encore augmenté pendant le confinement. Et même si aujourd'hui l'on y prépare des légumes ou des produits de la mer, la viande reste reine.
La viande, number one sur les barbecues et les planchas. C'est vrai que c'est un endroit qui permet à toute une famille et à des amis de se retrouver, de partager un vrai moment privilégié.
Vous allez livrer, là encore, dans toute la France, en 48 heures, pour tous les barbecues imaginables.
Exactement.
Mais le rapport qu'on a à la viande a quand même changé. Vous devez vous en être aperçu.
Hein. Bien sûr.
Manger de la viande, c'était un signe de richesse, c'était même un signe de santé. Plus tellement aujourd'hui. Hein. Comment vous êtes adapté à ça ? Le fait que la viande a moins bonne presse.
Il faut peut-être donc manger moins de viande. Ça, c'est une certitude. Moins de viande, mais une viande de qualité, une viande qui a été sourcée par nous-mêmes, bouchée. On est allé voir les élevages, on a rencontré les éleveurs, on a vu les animaux, que ce soit donc des animaux élevés en plein air Et donc, après, bien entendu, vous avez sélectionné les bêtes que vous connaissez à merveille. Et il faut juste après donner les meilleurs conseils pour les préparer, pour que ça fasse des plats extraordinaires.
Le cœur del huayo, ce serait votre grand-père qui l'aurait inventé. Comment c'est possible ?
Bien entendu, c'est mon grand-père qui l'a inventé. Malheureusement, il n'avait pas déposé le brevet à l'époque.
Mais le cœur del huayo, ce n'est pas une partie du bœuf ?
Alors, tout à fait. La loyo de bœuf est une des parties donc dans l'anatomie d'un bovin. Mais mon grand-père, à l'époque, voulait rebaptiser un petit peu une des pièces donc de la loyo, qui est la pièce centrale, qui est la pièce de faux filet. Et il s'est dit, mais comme elle est dans le milieu, on va appeler ça le cœur del huayo. Et pour la petite histoire, le cœur del huayo, c'est l'un des meilleurs plats à partager, donc toujours en famille ou entre amis, comme je vous l'ai déjà dit. Mais vous venez carrément d'énerver le faux filet, le paré, vraiment, qui ne reste plus rien, plus aucun air. Et vous reprenez le gras de bœuf que vous disposez tout autour. Après, vous ficelez et lors de la cuisson, la viande va se nourrir du bon gras qui était son gras de couverture. Et là, c'est un régal assuré à consommer vraiment bleu ou saignant pour les amateurs de saignant.
Autre légende de la famille Bissonnet, vous étiez installé, je l'ai dit, au 99 Faubourg Saint-Honoré. C'est la première boucherie nivernaise, vous y êtes toujours. Ça s'est passé en 1959, vous êtes devenu fournisseur de l'Élysée. Or, on dit que le général de Gaulle, quand il prenait ses repas en privé, payait de sa poche. Alors, est-ce que vous avez reçu des chèques signés Charles de Gaulle ?
Je confirme, nous avons reçu des chèques signés Charles de Gaulle. Mon grand-père et ma grand-mère souhaitaient à l'époque en conserver ne serait-ce que juste un, mais ce n'était pas possible puisqu'ils avaient vraiment besoin, on va dire, de mettre l'argent sur le compte en banque. C'est un grand regret aujourd'hui que de ne pas avoir de chèque du général de Gaulle, mais c'est vrai, bien entendu, c'est un fait avéré. Il payait toutes ses propres consommations avec ses propres deniers.
Quelle est votre viande préférée à vous ? C'est une question que je pose toujours au boucher. Et tous les consommateurs sont toujours curieux de savoir. Mais au fond, un boucher mange quelle viande ? De préférence, bien entendu.
Alors, pour moi, c'est la côte de bœuf. C'est vraiment, c'est ma chouchoute, ma favorite, c'est la côte de bœuf. La côte de bœuf sélectionnée par mes soins. J'ai une petite réserve particulière. J'aime faire en profiter aussi certains amis, mais moi c'est vraiment c'est le coup de cœur, c'est la côte de bœuf, parce qu'on est sur une viande de partage, on est sur une viande qui est une viande qui va cuire avec son os, et ça, on a vraiment une saveur unique.
Est-ce qu'il est arrivé déjà dans la famille qu'un Bissonnet se révèle un piètre boucher ? Vraiment pas doué, quoi.
Écoutez, ça, jamais. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas.
Merci.
Il suffit juste de la bonne formation et je peux vous dire que ce métier-là, c'est un métier juste passionnant, c'est un des plus vieux métiers de France et vous ne pouvez pas vous forcer. C'est juste une véritable passion que l'on se transmet. Chez nous, bien entendu, j'aurais pu faire d'autres choses, j'aurais pu travailler dans le monde de la finance, mais j'ai vraiment été tout de suite connecté au monde de la viande, au monde des boucheries nivernaises. Et j'en fais vraiment ma carrière. Et je suis hyper heureux d'être boucher et fier de l'être.
Merci Jean-Baptiste d'être venu sur Europe 1. Et ben bon été et bon barbecue.
Merci à vous. Bon été.
Europe 1.
C'est arrivé, cette semaine est terminée. On se retrouve demain matin à 9h. Vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien ?
Eh bien Frédéric, on va profiter de l'expérience, de l'expertise de nos grandes voix pour se projeter vers 2022 avec la présidentielle. La campagne a déjà commencé. Un fauteuil pour trois à droite. La gauche dispersée version puzzle, comme dirait l'autre. Et puis le duel Macron-Le Pen est-il toujours aussi inéluctable ? Ça promet pour cette dernière de la saison.
Bonne émission, Sébastien.
Merci, Frédéric.